Bienvenue sur Nomos TV. Comment ça se passe dans le clavardoir? Merci d'être là en direct avec nous. On a eu quelques petits problèmes techniques actuellement. Et d'ailleurs, le son est doublé. Comment ça se passe dans le clavardoir? Est-ce que vous nous entendez? Je pense qu'on n'est pas du tout en direct sur Odyssée. On est seulement sur Vidéon. Donc, voilà. Si vous êtes sur Vidéon, vous pouvez peut-être, s'il vous plaît, nous dire comment ça se passe sur nomos-tv.com, nomos-tv.com. Est-ce que vous êtes capable d'entendre? Vous voyez que le son est bon, l'image est belle. Que se passe-t-il? Hein, dans le clavardoir, on veut tout savoir. Mon cher Philippe.
On dit « je ne vois rien », ça marche 10 sur 10, puis c'est 0 sur 10. Fait que là, j'ai trop de...
trop d'informations.
Impec ici, A1. Merci, A1. Tim.
Oui.
C'est une attaque classique. Tu prends un logiciel, ça fait beaucoup de connexions. Retour du son, OK. Sur la coche, je n'ai pas d'image.
Pas d'image, le son,
ça roule, je viens juste de pogner son Nomos. Ça marche pour moi. Yes, 5 sur 5, 10 sur 10. Bon, donc, clairement, ça marche pour du monde. Moi je vois rien. Bon. Je me fie sur vous pour me
on
dire que c'est correct.
On se fie sur vous. Les Nomosiens. Alors, peut-être envoyer un petit message sur Odyssée, dire qu'il n'y aura pas de direct sur Odyssée actuellement. On va le télécharger plus tard, et on, en rediffusion finalement. Donc, merci d'être là après plusieurs minutes quand même de petits problèmes techniques. Merci à vous d'être fidèle au poste. Mon cher Philippe, comment ça se passe aujourd'hui?
Tout se passe bien dans la mesure où...
Dans la mesure du possible, tout se passe bien.
Ouais,
oui,
c'est
comme ça.
On haït ça, hein, les bugs techniques.
Les problèmes techniques, là, c'est très énervant. Voilà, on a essayé une nouvelle formule et puis ça n'a pas été concluant. Diffusion en même temps sur Facebook, ça semble avoir causé des problèmes. Alors, diffusion multiple, c'est ça qui semble poser problème, c'est qu'on essaie de diffuser sur plusieurs plateformes à la fois. Ça fonctionne mal. Eh bien, sans plus tarder, on va parler, de l'alliance des anglo-islamistes contre le Québec. Les anglo-islamistes, notamment contre la loi 21. On va revenir là-dessus. Alors, au sommaire de l'émission, on va parler de la réforme du mode de scrutin qui a été abandonné par la CAQ. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, évidemment, les Anglais contre la loi 21. Trudeau qui s'en mêle. QS aussi. Et voilà, QS. Je ne sais pas comment réagir face à l'attaque contre la loi 21. On va revenir là-dessus. Le collectif décolonial de QS qui n'est pas content. On va aussi parler des mathématiques qui deviennent racistes. Il y avait la piscine raciste. La nage était raciste. Maintenant, c'est également les mathématiques. On va revenir là-dessus, ce qui se passe en Ontario. On va revenir également sur l'arrestation à Québec. Vous savez, l'arrestation musclée. On va revenir là-dessus. Et puis, chemin Roxham. La collusion libérale au chemin Roxham, la langue qui divise la coalition Avenir Québec. On va voir qu'il y a deux groupes au sein de la CAQ, les bleus et les rouges. On va revenir là-dessus. Et puis, on va parler également de la sociologie des races à Paris. Il y a des cours de sociologie des races en France. Incroyable. Et puis également, on va terminer sur les leçons de la crise migratoire polonaise. Alors, sans plus tarder, je tiens à vous annoncer que le dernier Culture et Société de mes collègues Philippe Plamondon et Sébastien Crèvecœur qui portaient sur le Canada, un État islamiste. Très bonne capsule, 45 minutes, réservée aux abonnés. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous devenez membre, si ce n'est pas déjà le cas. Pop! On devient membre de Nomos TV et on va regarder cette culture et société sur les dérives du Canada islamisé. Et oui, c'est le djihad. Eh oui, carrément, c'est le djihad qui s'empare du Canada. Je vois que mon téléphone est... T'as allumé, je ferme ça, c'est bon, tout va bien. Je termine ça, oui, alors je vous invite à écouter ça, Culture et Société, le Canada, un État islamiste. Également, la semaine prochaine, il y aura une capsule préenregistrée qui sera réservée aux abonnés. Je vous invite, une capsule sur mon parcours, comment je suis passé d'un patriotisme civique à l'ethno-nationalisme, ou carrément le nationalisme tout court, comment on passe du patriotisme québécois, je dirais, le type péquiste, au nationalisme plutôt canadien-français historique. Alors,
le,
ça va être
le flip-fond nationaliste.
Ah oui! C'était le, moi, je suis resté voilà, début des années 2000.
Un téléphone non intelligent.
Un téléphone non intelligent! Exactement! Un téléphone non intelligent. Et puis, mon cher Philippe, donc je vous invite à devenir membre de Nomos TV. C'est pas fait, vous allez sur Nomos TV. Pourquoi? Eh oui, parce qu'on est la seule web télé d'opposition nationaliste au Québec. C'est pour ça qu'on est attaqué. Actuellement, bon, il y a des attaques informatiques, mais on est aussi attaqué par les États, par les gouvernements, notamment, voilà, le NT8 Network, financé par Trudeau, qui réprime les organes de... les organes de presse, les organes médiatiques qui font dans l'opposition nationale. On a été banni de YouTube, banni de PayPal, et là, on se retrouve sur des plateformes alternatives pour être capable de diffuser la bonne parole nationaliste. Donc, qu'est-ce que vous faites pour nous aider? Là, vous voyez, on a eu des problèmes techniques, mais c'est justement parce qu'on on est en train d'essayer de faire des choses. Vous voyez, on essaye de diffuser le plus possible sur diverses plateformes. Ça crée des problèmes, etc. On a besoin de vous pour construire ça. Vous savez, le fait de faire des capsules préenregistrées, c'est assez simple au niveau technique. C'est vraiment la question des directs qui est plus complexe à faire. Donc, je vous invite à devenir membre de Nomos TV pour soutenir ce média d'opposition nationaliste qui est celui de Nomos TV que vous aimez tant. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Beaucoup d'entre vous en direct. Et puis, je salue également ceux qui regardent cette émission en différé. Mon cher Philippe, il y a également, je tiens à le rappeler, pour Noël, aux éditions Tardivelles.
Oui.
Et oui, Genèse du séparatisme canadien-français. Donc, c'est finalement une collection de textes de Jules-Paul Tardivelle lui-même. Hein, vous savez, un franco-américain qui a embrassé le nationalisme canadien-français et qui a été le premier auteur à écrire notamment un ouvrage de fiction politique, sur le séparatisme. C'est-à-dire où il prônait carrément la séparation du Canada français. Incroyable! Fin du 19e siècle, alors il y a des complots, la maçonnique à Ottawa et le Québec catholique résiste. Voilà, c'est assez incroyable. Son roman s'appelle « Pour la patrie ». Et là, on vient de sortir aux éditions Tardivelles. Les éditions Tardivelles viennent de sortir « Genèse du séparatisme canadien-français ». C'est une collection de textes de Jules-Paul Tardivelle. Donc, vous ne savez pas quoi acheter. Hein, votre oncle péquiste ou votre père qui déprime, ça fait 20 ans qu'il déprime parce que le référendum de 1995 a échoué. Et voilà, il faut lui redonner un peu de pep. Et qu'est-ce que vous faites? Vous contactez les éditions Tardivelles pour commander l'ouvrage. Voilà, alors comment vous faites pour commander? Vous envoyez un courriel à édition pluriel avec un S, tardivelle@gmail.com, édition tardivelle@gmail.com. Comme ce sont des patriotes qui publient cela, ils ont besoin de vous, de votre encouragement. Et oui, au lieu d'aller chez Renaud Bré, acheter un livre, là, je ne sais pas trop quoi, le dernier truc de Dany Laferrière, non! Vous achetez Genèse du séparatisme canadien-français aux éditions Tardivelle pour Noël. Quel beau cadeau vous pouvez faire à Noël, n'est-ce pas? À votre, voilà, votre père, votre oncle, que sais-je encore, votre ami souverainiste. Voilà. Alors, c'est ce que vous faites, Genèse du séparatisme canadien-français. Sans transition aucune, mon cher Philippe, nous allons tout de suite passer au moment que vous attendiez tous. Le moment pilule blanche, et oui! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, le moment pilule blanche? Pas besoin d'aller en Europe de l'Est, en Europe centrale, pas besoin d'aller aux États-Unis. Cette semaine, la pilule blanche, c'est une pilule blanche québécoise. Que se passe-t-il? Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière campagne électorale, à peu près tous les partis politiques étaient en faveur de la réforme du mode de scrutin. La réforme du mode de scrutin. Insupportable, ce truc. Qu'est-ce que c'est que une réforme du mode de scrutin? Et oui, parce qu'ils voulaient introduire des éléments de proportionnalité. Alors, qu'est-ce que ça aurait fait? Ben, en gros, ça aurait fait diminuer le pouvoir politique des Canadiens français dans les régions, donc hors Montréal, pour donner plus de pouvoir à Montréal. À Montréal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des angloïdes, il y a des halogènes et il y a des bobos QS, gauchistes. Donc, ça aurait été catastrophique. Donc, ça n'avait strictement aucun sens hein, d'un point de vue électoral pour les partis bleus, c'est-à-dire pour la Coalition Avenir Québec et pour le Parti québécois, ça n'avait pas de sens de soutenir cette réforme électorale. Donc, Legault vient d'annoncer Il foutait ça au vidange. C'est une très, 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 très bonne nouvelle. Je vais vous lire l'article ici qui est sorti sur Cube Radio. Le gouvernement Legault abandonne finalement sa promesse électorale de réformer le mode de scrutin, un geste d'un cynisme incroyable selon le mouvement Démocratie Nouvelle. Le cabinet de la ministre responsable de la réforme démocratique, Sonia Lebel, a confirmé la nouvelle vendredi, en fin d'après-midi. Elle dit appuyer sa décision sur la pandémie qui a tout chamboulé. Une réforme du mode... Oui, mon œil, la pandémie, elle a bon dos! Une réforme du mode de scrutin, ce n'est clairement pas une priorité pour les Québécois après tout ce que nous venons de traverser. Les gens ne sont tout simplement plus là, indique son attachée de presse, Florence Plourde. Les grandes priorités des Québécois, c'est de se sortir de cette crise sanitaire, de redresser le réseau de la santé, de relancer notre économie, de combler les postes manquants dans les services essentiels de l'État, d'assurer la réussite éducative de tous nos enfants, affirme-t-elle en ajoutant que notre gouvernement se concentrera sur ses priorités dans les mois et les années qui suivent. Rappelons que le premier ministre avait présenté à l'automne 2019 un projet de loi qui aurait transformé la façon de tenir les élections au Québec. Du même coup, il avait annoncé qu'il demanderait aux Québécois de se prononcer sur la question dans un référendum, ce qui ne faisait pas partie de sa promesse initiale. Oui, oui, parce qu'il y avait eu un premier temps où Legault a dit « Oui, en passant, on va faire l'élection, puis en même temps qu'il va avoir l'élection, on va mettre un référendum pour savoir si on change le mode de scrutin. » Finalement, il dit « Oui, le référendum, en fait, voilà, on fout ça au vidange. » Donc, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, je vais vous dire pourquoi. Parce que avec le système parlementaire actuel, le système de députés actuels, on peut contrôler l'Assemblée nationale avec, en gros, 35, 36, 37 % du vote. Hein? Dans un système de multipartisme, on peut réussir à contrôler 35, 36, 37 % de l'électorat avec environ 35 % du vote. Parce que le vote est bien réparti partout au Québec, on peut réussir à contrôler l'Assemblée nationale. La coalition Avenir Québec a une large majorité à l'Assemblée nationale et elle a seulement un appui de 40 % des votants. C'est pas grand-chose. Et pourtant, elle réussit à contrôler l'État québécois. Donc ça, c'est bon pour nous, parce que même si la démographie ne va pas dans notre sens, c'est-à-dire, en gros, les allogènes deviennent de plus en plus... de plus en plus présent sur le territoire national et que la proportion de Canadiens français décroît, en raison de la répartition géographique des Canadiens français au Québec, on va pouvoir continuer à contrôler l'État, que ce soit à travers le Parti bleu qui est la CAQ ou un autre parti peut-être encore plus nationaliste dans les décennies qui viennent. Tout ça pour vous dire que c'est très bien et il ne faut absolument pas, il ne faut absolument pas se laisser hypnotiser par le discours de réforme démocratique des associations qui veulent instaurer la proportionnelle. La proportionnelle, ce serait catastrophique, à mon sens, pour nos intérêts nationaux en tant que Canadiens français. Donc, cette nouvelle est une très bonne nouvelle. Et puis, on peut quand même souligner la lucidité. Alors, ce gouvernement Legault est assez insupportable sur bien des aspects, notamment concernant le bolchevisme sanitaire. Mais là-dessus, c'est une bonne chose que cette réforme du mode de scrutin soit foutue aux poubelles. Voilà. Alors, sans plus tarder, mon cher Philippe, on va passer à la revue de presse.
Oui.
La loi 21.
OK.
Qu'est-ce qui se passe avec la loi 21? Qu'est-ce qu'ils ont, les angloïdes, à nous péter les couilles avec cette petite loi molle?
Pour rappeler à nos amis en Europe, la loi 21, c'est la loi sur la laïcité de l'État au Québec. Hein?
Oui, alors une loi très molle.
Ah oui.
Oui, très molle. Les fonctionnaires de l'État en poste d'autorité coercitive ne peuvent pas portée de signes religieux. C'est ça, en gros, la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État. OK? C'est rien, là. C'est les juges, les procureurs de la couronne, les gardiens de prison, les policiers et les enseignants. C'est ça, là. On dit juste, OK, est-ce que vous pouvez vous calmer avec votre fondamentalisme oriental, de secte orientale, les sikhs, les juifs, les mahométans? Calmez-vous, quoi. Pas de kippa, pas de turban, pas de hijab, pas de niqab. Et puis, si vous avez une petite croix autour du cou, vous la mettez à l'intérieur de votre chandail et puis c'est tout. Basta. C'est simple, quoi. On ne disait pas la mer à boire. Hein? C'est quand même un peu la norme. Alors, évidemment, ce qui apparaît comme le strict minimum en France, notamment avec la loi sur la laïcité, et bien au Québec, c'est vu, surtout au Canada anglais. Le Canada anglais réagit comme si on instaurait que les lois, je sais pas quoi, c'est le Troisième Reich. Bon, il va falloir que les Anglais se calment. Et là, que font les Anglais? C'est cocu d'Anglais qui protège la liberté individuelle, donc la liberté individuelle des fondamentalistes religieux. Que font-ils? Eh bien, ils sont en train de faire une campagne pour financer les opposants à la loi 21. Financer les opposants, notamment le lobby juridique proche de la Lord Reading Society, donc le lobby juridique juif qui est allié aux islamistes contre la loi 21, eh bien, les maires canadiens anglais veulent récolter des fonds pour aider les judéo-islamistes à combattre la loi 21. Mais on est dans la dinguerie pure. Alors, je vais vous lire cet article de la presse. Après Calgary. Oh, Calgary, oh, c'est sorti de la ville, vous savez, l'Alberta, Redneck, oui, mon œil. Vous savez qu'ils ont élu comme maire à Calgary une femme hindoue. Une hindoue. Alors, on passera pour les Rednecks. Ils sont encore plus multiculturalistes que les Torontois. Oh. Hein, donc ça, le mythe de l'Alberta Redneck, là, on passera. Ouais. Après Calgary, la veille, voici que Toronto se rallie jeudi à l'initiative de Brampton. Brampton, en Ontario. Où le maire Patrick Brown veut lancer une croisade contre la loi 21 en fournissant des munitions, lire de l'argent, aux partis qui contestent la loi. À Montréal, à Québec et à Longueuil, on y oppose une fin de non-recevoir. Ben, attends. La réaffectation d'une enseignante de troisième année de Chelsea en Outaouais qui était en contravention avec la loi 21 puisqu'elle portait le hijab en classe. Mais oui, ça fait 2 ans qu'on parle de cette loi. OK, donc quand la commission scolaire anglophone de l'Outaouais a engagé cet islamiste qui est venu faire de la provocation, les Anglais savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mm-hmm. Okay? Tout ça, c'est de la provocation de la part des angloïdes de l'Outaouais. A visiblement ravivé les ardeurs des opposants à l'interdiction du port des signes religieux pour les employés de l'État québécois en position d'autorité. Le maire de la ville ontarienne de Brampton, Patrick Brown, a invité les premiers magistrats des dizaines de villes du Canada à participer au combat en cours devant les tribunaux en versant une aide financière aux organisations qui tentent de casser la loi adoptée en juin 2019. La nouvelle mairesse de Calgary, Jyoti Gundek, l'hindoue en question, a signalé mercredi soir sur Twitter qu'une motion urgente en ce sens serait présentée au conseil municipal lundi prochain. Là, je cite Madame Gundek, la remplaçante de Calgary, l'hindoue qui est devenue mairesse de Calgary. Oh, Calgary, ville de l'Alberta, Redneck. Et ils ont des maires hindous là-bas.
Redneck contre les Québécois.
Ah oui, contre les Québécois, contre les Canadiens français, là, ils sont très redneck. Par contre, quand c'est le temps de se faire remplacer par des Pakistanais et des hindous, ah là, les Albertans, on les entend moins. Nous demeurons unis afin de protéger les communautés racialisées contre la discrimination. Les communautés racialisées, c'est les communautés racialisées. Oui, mais la loi 21, elle fait en sorte que le gouvernement québécois a retiré le crucifix à l'Assemblée nationale du Salon Bleu. Ah, quand on retire le crucifix de l'Assemblée nationale, est-ce que quoi, c'est on vise les minorités racisées? Je comprends pas, parce que le catholicisme, c'est la religion majoritaire au Québec. C'est la religion de la race française en Amérique. C'est la religion de la majorité historique, comme diraient les chroniqueurs de Québécois. La majorité historique, oui, les Canadiens français, quoi. Bon, alors, est-ce que là, on est dans le racisme systémique? Non, on est juste dans la laïcité de l'État. Dans des putains d'Anglais, encore une fois, complètement à l'Ouest. Complètement à l'Ouest, les Angloïdes. Et ils s'allient aux islamistes. Ils veulent pomper du fric de leur municipalité pour les donner aux islamistes pour combattre les lois québécoises. Mais bordel de chiasse, mais restez chez vous, les Anglais. Qu'est-ce qu'on vient de vous faire chier? C'est comme si les maires québécois, mettaient de l'argent en commun pour contester des lois, je veux pas, de la Saskatchewan ou de l'Ontario. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on se mêle de vos législations à la con, les Anglais? Non, on vous laisse tranquille. Pourquoi vous nous pétez les couilles? Pourquoi est-ce que vous nous pétez les couilles avec votre multiculturalisme à la con? Je veux dire, à la limite, vous voulez des policières voilées à Calgary, à Toronto, je ne sais pas trop. Vous voulez des OK, moi, je m'en fous. Vous voulez des types de la GRC à turban. Vous voulez des juges à kippa. Mais c'est pas mon problème, ça. Je m'en fous. On vient pas vous faire chier avec votre modèle multiculturaliste à la con. Pourquoi est-ce que vous financez les islamistes contre le Québec? Mais c'est dingue, ça! Vous financez l'islam politique contre le Québec. Vous en êtes là, les Canadiens anglais. Mais vous êtes une bande de cocus. Vous êtes des cocus contents parce que non seulement vous faites remplacer, vous faites turbo-remplacer, soit dit en passant, là, Canada anglais, c'est le pays qui subit les plus grands changements ethno-démographiques de tout l'Occident. On va quand même rappeler les choses. Le grand remplacement, si vous pensez que ça y va en Europe, ben regardez le Canada anglais. C'est multiplié par deux. Je rappelle que le projet du Canada anglais, c'est de transformer ce pays qui est aujourd'hui de 35 millions d'habitants, un pays de 100 millions d'habitants en 2100, c'est-à-dire d'ici 80 ans, avec l'immigration massive. Ah oui! En 2050, la majorité des habitants des métropoles canadiennes ne seront plus blancs. C'est demain, quoi, 2050. C'est dans 20 ans, dans 30 ans.
Puis c'est pas caché, hein? C'est un programme qui s'appelle l'Initiative du siècle.
Mais oui, l'Initiative du siècle. Et ces gens-là sont des conseillers de Justin Trudeau. Tout ça est très, très proche du Parti libéral du Canada. Ça va, quoi. Vous êtes des cocus contents, les Anglais. Alors nous, on a encore une pulsion de vie, les Anglais. Hein, chers Angloïdes? On a encore une pulsion... Alors, je ne dis pas que la loi 21 va régler tout... Non. Mais voilà, c'est... Legault l'a exprimé à sa manière un peu mononcle. Bonhomme. Il a dit, au Québec, c'est comme ça qu'on vit. En gros, assimilez-vous, quoi. Hein, les races hostiles venues d'Orient, vous allez vous calmer et vous allez prendre nos mœurs. C'est tout. C'est pas compliqué, là. OK? Et vous n'allez pas nous casser les couilles avec vos revendications d'islamistes orientaux, quoi. De sectes orientales, les sikhs, les juifs, les mahométans. Non, là. Ça ne fonctionne pas. Vous voulez vivre... Attends, ça, c'est aussi... Quand même, on peut quand même parler à tous ces sectaires du tiers-monde qui viennent nous envahir. Écoutez, les gars. Vous voulez vivre le multiculturalisme canadien. Moi, je m'en fous. Pourquoi pas? Mais il faut aller en Ontario, quoi. Il faut aller au Canada anglais. Allez-y, hop, hop, hop! On zoom, les gars! Zoom en Ontario! Arrêtez de nous faire chier! C'est pas possible, quand même! Donc... Et en plus, vous voyez, les Anglais, ils vous aiment tellement qu'ils sont prêts à financer avec le pognon de leurs contribuables le combat contre les lois québécoises. Mais c'est dingue, ça! Donc, je dis quand même, comment je dirais, hein, à tous ces anglo-islamistes, là, juifs, sikhs, l'Alliance orientale, moi, c'est comme ça que j'appelle ça, l'Alliance orientale contre le Québec, les juifs, les juristes juifs qui défendent les mahométans et les fondamentalistiques, tout ça aidé par les angloïdes, là. Vous prenez vos baluchons et vous prenez la 401. C'est la loi 21 ou la 401. Vous allez en Ontario. Alors, vous allez être bien. Alors, c'est génial, l'Ontario. C'est le paradis multiculturel. À eux, ils vous aiment, les Ontariens. Ils veulent être remplacés. Ils veulent des islamistes. Ils veulent des juifs à kippa. Ils veulent des sikhs à turban. Allez-y! Allez-y! Ça va nous faire plaisir. Zoom en Ontario. Eh oui! Oui, ça, il n'y a pas beaucoup d'avantages de ne pas avoir de frontières souveraines pour le Québec, mais il y a un avantage, c'est tous les métèques hostiles au mode de vie québécois, mais voilà, ils peuvent aller en Ontario. Il n'y a pas de front. Allez-y en Ontario. Vous voulez vivre le rêve multiculturel canadien, mais allez-y, on vous invite à y aller. Zoom en Ontario. Eh oui. Ah, je continue la lecture de l'article. Le maire Brown, donc ça c'est le gars là, ça c'est le gars de...
Brampton.
De Brampton. Ouais. Le maire Brown, ex-député conservateur fédéral et chef déchu.
Un homme de droite.
Ah oui, du Parti progressiste conservateur ontarien, la grosse droite qui salue les islamistes, invite 100 grandes villes canadiennes à se rallier à sa démarche. Il a reçu des réactions positives des maires de Calgary, Toronto, Winnipeg et d'autres, selon Gary Collins, son directeur de communication. Après avoir déclaré que le gouvernement Trudeau était en accord avec les Québécois qui défendent leurs droits devant les tribunaux parce qu'ils trouvent cette loi injuste, la ministre, Chrystia Freeland, a invité son interlocuteur à cesser de semer la pagaille. « N'essayez pas de créer des chicanes entre nous et le Québec, s'il vous plaît, a-t-elle laissé tomber? » Ben oui, Parce que là, le Canada anglais, il y a des gens au Canada anglais qui comprennent que le fait que les maires canadiens anglais financent les islamistes pour combattre la loi 21, ça va solidariser les Québécois avec, avec cette loi et avec le gouvernement. Et que si cette loi est invalidée par la Cour suprême, ce qui est fort possible, bien, ça risque de créer une crise constitutionnelle. Et oui. Prochain article, mon cher Philippe. Trudeau livre le fond de sa pensée sur la loi 21.
Oui. D'ailleurs, lui, il doit pas aimer ça. Hein?
Alors, dans une entrevue de fin d'année à la presse canadienne, Justin Trudeau a livré le fond de sa pensée sur la loi québécoise sur la laïcité de l'État et cela ne se limite pas à sa réaction au sort réservé aux enseignants. Il s'éloigne résolument du consensus qu'a signé à une certaine époque la commission Bouchard-Taylor. Selon lui, les juges et les policiers aussi devraient pouvoir afficher des signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions.
Ah ben oui.
Des juges à nicab. Radical. Oui, ben oui, oui, des juges à nicab, pourquoi pas?
Ben oui.
Je pense que quand on tombe dans une lignée où on commence à dire que quelqu'un qui est religieux fera un moins bon policier ou juge que quelqu'un d'autre, on est en train de miner la confiance que les gens peuvent avoir dans nos institutions, a-t-il argué? Ah ben moi, je pense qu'on peut avoir...
C'est l'inverse.
C'est l'inverse. On va commencer à avoir finalement une dégradation de la confiance dans nos institutions quand on voit des fondamentalistes à turban, à hijab ou à kippa dans nos institutions. Ah là, oui! Ah là, 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 notre confiance va être minée, là, M. Trudeau. Ça, c'est clair. Ses collègues du Parti libéral du Québec n'avaient protesté, que contre l'ajout des enseignants à la liste des personnes aux autorités visées par la loi. Et depuis le débat sur le projet de loi 21 et l'adoption en 2019 du texte législatif, les opposants aux restrictions brandissent surtout les enseignants comme exemple d'injustice. Lui, il va plus loin. Il dit « Oui, oui, même les juges, les policiers... » Tout compte fait, Justin Trudeau estime que son père avait raison. Écoutez bien ça. Il défend la position de son père, Pierre-Éliott Trudeau. Il avait raison de ne pas vouloir d'une clause dérogatoire dans la Charte canadienne des droits et libertés. Le gouvernement de François Legault a évoqué cette clause nonobstant pour prémunir sa loi sur la laïcité de l'État contre des attaques devant les tribunaux. Je suis d'accord avec mon père que ce n'est pas une bonne chose à avoir dans la Charte, a-t-il tiré comme conclusion. Donc, vous voyez, donc Trudeau en rajoute. Au lieu de calmer le jeu, il en rajoute, cet enfoiré, en disant « Oh, et même la clause dérogatoire, qui fait en sorte que la Confédération tient à peu près, parce que les provinces peuvent utiliser cette clause dérogatoire pour mettre en place des législations qui ne respectent pas totalement la Constitution canadienne. » Oui, c'est une sorte d'accommodement, en quelque sorte, hein, notamment pour le Québec. Il dit « Non, non, ça, il n'en faudrait pas. » Donc, lui, il veut le multiculturalisme mur à mur, du Pacifique jusqu'à l'Atlantique. Donc, Trudeau, pour lui, c'est normal, on va bien comprendre ça, là. Pour Trudeau, c'est normal qu'il y ait des policiers, des policières à hijab, à turban, à kippa. Des juges à hijab, à turban, à kippa. Pour lui, des gardiens de prison, des enseignants, tout ça, il trouve ça totalement normal. C'est la logique du multiculturalisme canadien. Totalement dans la veine, d'ailleurs, du monde anglo-saxon, anglo-protestant. Je rappelle qu'en Grande-Bretagne, il y a des institutrices en ICAB. Eh oui! Les anglo-cocus qui aiment l'islam, qui aiment le Pakistan. Je rappelle qu'il y a des manifestations islamistes au Royaume-Uni qui veulent la charia, daoulé islamie, l'État islamique.
Ils l'ont.
Le Coran destourna, hein, le Coran comme constitution. Et d'ailleurs, ils ont des tribunaux islamiques pour les droits de la famille. Comme, par ailleurs, je fais une petite parenthèse ici, comme nous, on a donné aux Juifs, au début du 20e siècle, des tribunaux rabbiniques. Il y a au Québec des tribunaux rabbiniques. On ne comprend pas trop pourquoi on a donné ça aux Juifs et pourquoi on ne le donnerait pas aux Mahométans. Hein, moi, je pense qu'à terme, dans la logique des choses confessionnelles, on n'aura pas le choix de donner aux musulmans le droit chariatique familial comme on l'a donné pour le Beth Din, le tribunal rabbinique. C'est juste la suite logique des choses. Alors évidemment, moi, pour prévenir tout ça, moi, je suis pour la fin immédiate de tous les accommodements raisonnables envers les juifs orthodoxes. Les accommodements raisonnables, les tribunaux, tout ce qu'on a donné aux juifs, la bouffe chère, tout ça, tout ce qu'on a donné aux juifs comme accommodement raisonnable, on doit leur retirer. Ça, c'est ma position actuelle. Ah oui! Parce que ce qu'on a donné aux Juifs, inévitablement, on va devoir le donner aux Mahométans. Et croyez-moi, les Mahométans, ils regardent ce que les Juifs font et ils font la même chose. Ils ne font que copier les demandes d'accommodement raisonnables que les Juifs demandent. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut revenir. Non seulement il faut être ferme par rapport aux Mahométans, mais en plus, il faut enlever les privilèges qu'on a donnés aux Hébreux. Ça, c'est ma position, qui, je pense, est simplement une position de bon sens. Alors, pendant que Trudeau nous dit qu'en fait, il est carrément contre la laïcité, bon, il est contre le principe de laïcité, mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il à QS, mon cher Philippe?
Aha.
Québec solidaire! QS déplore de voir le Canada anglais débarquer avec ses gros sabots dans la contestation de la loi. GND, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé déplorent la décision de la commission scolaire Western Québec d'avoir offert un poste d'enseignante à Fatima Anvari, une femme de confession musulmane portant le hijab. Et ça, en contravention avec la loi 21 qui a été adoptée par l'Assemblée nationale il y a 2 ans et demi. À leurs yeux, les partis de l'État, comme les commissions scolaires, ne peuvent décider de ne pas appliquer les lois de l'État. Ouais, encore heureux. On peut avoir une ouverture à reconnaître la légitimité de la désobéissance civile et individuelle dans certaines circonstances et être très clair sur le fait que l'État de droit ne peut pas se morceler de l'intérieur, souligne le député de Gouin. Monsieur Nadeau-Dubois et Mme Massé sont opposés à la loi 21, mais ignorent encore ce qu'ils en feront si QS se voit confier les commandes de l'État québécois au lendemain des prochaines élections.
Ils savent pas! On sait pas, peut-être qu'on est trop multilustucru, peut-être qu'on est laïcard, on sait pas, on est QS, on tient une position, puis après, on est infiltré par les islamistes, on change notre position, on sait pas, on est Québec solidaire, voilà, des gauchistes travaillés par différents courants, les décoloniaux, les laïcards, les marxistes, les trotskistes, c'est Québec solidaire,
Ils feront connaître leur intention au cours des prochaines semaines, assure-t-il au Devoir. Il va falloir de la neige, il va y avoir de la neige encore, promis M. Nadeau-Dubois, c'est ne mouille pas trop, mais président, alors il faut des analogies avec la température parce qu'ils ne savent pas quoi répondre. Le premier ministre François Legault décrit QS et le woke qui dirige son action au Parlement comme le principal adversaire de la coalition Avenir Québec. Pourtant, à moins de 10 mois du scrutin, QS recueille l'appui d'à peine 13 % de l'électorat comparativement à 46 % pour la CAQ, 20 % pour le PLQ, 13 % pour le PQ et 5 % pour le Parti conservateur, selon la firme Léger. Si la tendance se maintient, le parti de gauche fera élire de 4 à 10 candidats, alors que la CAQ fera élire de 83 à 107 candidats le 3 octobre prochain, estime Québec 125. Eh oui, QS! Lécher le derrière des islamistes, ça ne paye pas à l'extérieur de Montréal. Si déjà vous étiez un peu plus de la gauche laïcarde, genre gauche ouvrière, gauche des régions, on défend les travailleurs, un truc, même à la limite la gauche populiste,
ouais.
Vous pourriez faire quelque chose.
Pour avoir des boomers séduits par ça.
Et vous pourriez aller chercher du petit 20 % je ne sais pas, moi, un truc raisonnable.
Mais non,
vous êtes des connards, les QS. Vous léchez le cul des islamistes. Ouais. Et pendant ce temps-là, ils vous crachent à la gueule. On va passer au prochain... prochaine nouvelle. Rififi chez QS, Philippe.
Ouais.
C'est ton ami, ça.
Sangul Onoglouglou.
Sibel Epi Ataogul. Donc d'origine, évidemment, turque, avec un nom comme ça.
Oui, c'est ça.
Clair. Ouais. C'est une militante de QS qui avait dénoncé le racisme systémique chez Québec solidaire. Oui, oui. Parce que QS, c'est le blanc triarcat, patriarcal. Parce que je rappelle que le collectif antiraciste décolonial de QS avait soutenu les propos d'Amir Attaran en disant que la loi 21, c'était du suprémacisme blanc, un truc du genre. Et là, QS avait dit, OK, là, calmez-vous. Là. Parce que la loi 21 est très populaire au Québec. La laïcité, c'est un combat de gauche. Calmez-vous, quoi, les collectifs antiracistes décoloniales. Et là, Madame Ataogul est sortie en disant « Oh! Oh! La répression de Québec solidaire contre le collectif antiraciste décolonial. Moi, c'est du racisme systémique! » Donc, vous voyez ce qui arrive quand on fait des concessions aux islamistes? Ils sont jamais contents. QS tasse son collectif laïcité, accueille en son sein le collectif antiraciste décolonial, donc les islamistes, en gros, et là, ils disent, oui, bon, quand même, modérez un peu vos ardeurs, parce que la loi est quand même populaire. Et nous, on essaye quand même, on a besoin d'élus, quoi, on a besoin de députés. Donc, il faut être en phase avec la population québécoise. On ne peut pas être juste dans une bulle décoloniale d'extrême gauche, qui vit hors sol dans le monde imaginaire du post-féminisme islamique de l'UQAM. OK? Ils ont besoin d'enracinement un peu populaire, QS. Donc, ils disent « calmez-vous ». Évidemment, les islamistes du collectif leur ont craché à la gueule. « Ah, vous êtes des blancs triarcats !» Alors, que nous dit Mme Ataogul sur Facebook? C'est public, hein, Facebook. Voilà, moi, j'étais voir ce qu'elle nous dit. Donc, ça, c'est son statut Facebook du 17 décembre. Les positions exprimées ici par Gabriel Nadeau-Dubois en parlant des positions exprimées dans l'article que je viens de vous lire contredisent ce que nous avons adopté au sein du parti, soit de combattre la loi 21. Combattre la loi 21. Cette position est complètement inacceptable et mérite un blâme à son égard. Donc là, elle appelle un blâme contre Jindé.
Parce que ça va faire le populisme.
Oui, oui, parce que là, Jindé devient populiste. Le populisme, c'est assez. Ouh! Quand tu commences à ne pas respecter les positions de ton parti ouvertement, t'as vraiment un problème.
Elle est choquée, Onoglouglou.
Et oui! Attends, Madame Ataogul, elle voudrait que la soumission de QS aille encore plus loin face à ses petits chéris islamistes. Mais QS, ouais, ils regardent le portrait, ils disent « Ouais, les Québécois, là, dans leur transformation anthropologique depuis la Révolution tranquille, là, globalement, ils sont très acquis aux thèses de la laïcité, globalement. Et surtout, l'impression qu'on leur impose des mœurs étrangères par cette immigration massive venue du tiers-monde qui est revendicatrice au niveau religieux. Tout le monde en a marre, quoi.
Ben oui.
Les gens en ont ras le pompon. Et à l'intérieur même de la gauche, parce que je rappelle que la laïcité est un principe de gauche, c'est un combat de la Troisième République française contre l'Église catholique. Donc la gauche, elle-même est divisée sur la question de la laïcité. Parce que la gauche historique a une conscience historique. Je suis désolé de vous apprendre que pour elle, la laïcité, c'est en continuité avec notamment les combats des patriotes de 37-38 qui voulaient déconfessionnaliser l'enseignement. C'est un vieux combat au Québec, des rouges, hein, des libéraux qui étaient inspirés par notamment les idées républicaines, notamment américaines, de vouloir déconfessionnaliser l'éducation. Vieux combat qui date de la première moitié du 19e siècle. Il y a des gens au Québec qui ont une conscience historique chez la gauche. Et pour eux, la laïcité, c'est la continuité de ce combat de gauche contre l'obscurantisme religieux. Alors évidemment, avant, c'était les curés. Les curés, aujourd'hui, ils tiennent... Allez dans une église, les curés, ils tiennent un discours proche de celui de Québec solidaire. L'accueil des migrants, l'accueil des réfugiés, l'ouverture à l'autre. OK, c'est de la bouillie pour chat multiculturaliste remplaciste. Surtout avec Bergoglio, hein, le pape François. Ah là, on est dans l'embrasser des pieds de migrants, quoi. C'est tout. Manon Massé, pape François, kiff kiff bourricot. Bon, évidemment, l'Église, techniquement, elle est réactionnaire, on peut dire ça comme ça, sur les enjeux sociétaux, avortement, mariage, etc. Mais la réalité de l'épiscopat québécois, c'est quoi? Mais c'est qu'ils ne disent rien sur ces enjeux-là. Donc, ils sont très militants pour l'ouverture à l'autre. Donc, quand c'est le temps d'être gauchiste sur le plan, identitaire, alors là, ils y vont à fond, là, universalisme catholique, ouvrez vos frontières, ouvrez les bras, accueillez, faites-vous remplacer, les valeurs chrétiennes d'ouverture, Bon. Quand c'est le temps d'être à droite sur les enjeux sociétaux, c'est-à-dire de respecter la doctrine de l'Église, parce que je rappelle que même avec Bergoglio, la doctrine de l'Église, c'est quand même de refuser le mariage homosexuel et refuser l'avortement. Donc, sur les enjeux sociétaux où ils pourraient être très à droite, ils disent rien, ils pipent pas mot. Donc, le clergé québécois, ultra à gauche sur l'ouverture et sur l'identité, mais par contre, pour respecter la doctrine sociale de l'Église, ils disent rien. Donc, bon, l'Église, c'est une catastrophe au Québec. L'épiscopat québécois, c'est une catastrophe, on ne va pas se mentir. Ils ont fait le choix du grand remplacement. Hein? Donc, aujourd'hui, quand on combat la religion, quand les gauchistes combattent la religion, je suis désolé, ce n'est pas l'Église qui combatte. Parce que l'Église, elle est sur des positions gauchistes, notamment sur le point de vue identitaire. Et on ne les entend pas sur les enjeux sociétaux. On ne l'entend pas sur les enjeux sociétaux. Donc aujourd'hui, le visage du prosélytisme religieux, c'est le turban sikh et c'est le hijab, mahométan, principalement. Et puis, il y a aussi la question des accommodements raisonnables avec les juifs. Voilà, on se demande vraiment, les écoles religieuses illégales, cachère. Vous savez que 70 % de ce que vous avez, des produits que vous avez chez vous, est cachère.
Puis que ça coûte quelque chose au consommateur.
Mais oui, il y a des rabbins qui passent dans ça, la mafia du rabbinat là, qui se fait payer pour certifier que vos trucs sont cachères. Vous n'en avez rien à secouer que ça soit cachère. D'ailleurs, vous savez quoi? Les juifs orthodoxes n'en ont rien à secouer aussi parce qu'ils ont leur propre épicerie cachère et ils n'achètent pas le même truc que vous. Mm. Donc, tout ça est un racket épouvantable de la bouffe cachère. Donc, bouffe cachère, comment ça s'appelle? Le tribunal, le Beth Din, pour les mariages et le droit familial pour les juifs, arnaque. Et puis, autre chose, qu'est-ce qui est une arnaque aussi? Ben, les écoles illégales, qu'on tolère.
Où ça a été démontré qu'il y a de la maltraitance sur les enfants.
Ben oui, non, mais c'est hallucinant.
Ils apprennent pas ce qu'il faut.
C'est des sectes, toi, là.
Ben oui. Ils sortent de là à moitié des.
Mais moi, je dis quand même les choses. Hein. C'est-à-dire que pour vivre pleinement leur judéité, il faut y aller en Israël. Hein. Pour moi, c'est une évidence. Il n'y a pas à chipoter. Il faut retourner en Judée, les gars. Parce que c'est sûr que dans un pays qui possède la raison, déjà, moi, je vais vous dire, les mutilations génitales sur les enfants, moi, j'interdirais ça. Donc, les Mahométans et les Hébreux qui coupent la bite de leurs enfants pour les rapprocher de Yahvé ou de Allah, moi, j'interdirais ça. Je suis pour l'interdiction de la circoncision non médicale. Voilà. On possède la raison. Et d'ailleurs, je suis pour l'interdiction aussi de l'infibulation des petites filles avec les pratiques africaines. Hein, la mutilation génitale sur les enfants, nein! Non! Ça ne passe pas. On interdit ça. Ah mais oui, mais c'est sûr, avec les sectes sémites qu'on scoltine, c'est vu comme du racisme systémique. Parce que les gars, ils sont encore au 7e siècle. Ou même pré-Jésus-Christ, quoi. Un peu dans le cas des Juifs. Donc, voilà, secte insupportable. D'ailleurs, hein, les gens qui pensent, les Juifs comptent mieux. Non. Tout le monde est ensemble. Là, vous avez les Anglais, vous avez les Sikhs, vous avez les Mahométans, vous avez les Juifs. Et vous avez la gauche multilustucrue qui essaye de pomper le vote immigré au Parti libéral. Et là, QS, on le voit, est en explosion. Parce qu'à l'intérieur même de Québec solidaire, il y a des gens qui ne trouvent pas ça rigolo de se faire faire la morale par des islamistes à la con. Je vous le dis, ultimement, Manon Massé, son destin, c'est d'être remplacé par un imam. Remplacé par une femme voilée, en quelque sorte. Dans 20 ans, si Québec solidaire ne se transforme pas pour fusionner avec le Parti libéral, hein, d'ailleurs, on voit de moins en moins de choses qui distinguent le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, hein, c'est comme le NPD et le Parti libéral du Canada, hein, tout ça va finir par fusionner. Idéologiquement, ça va être des détails, quoi. Mais ils sont encore très marxistes, Québec solidaire, sur le plan économique, donc c'est ce qui pose problème. Éventuellement, pour parvenir au pouvoir, ils vont devoir se démarxiser, être de moins en moins socialistes, et puis être dans une espèce de gauche de gouvernement. Donc, ils vont se rapprocher du Parti libéral du Québec. Mais s'ils n'opèrent pas cette mue-là, il va se passer à Québec solidaire ce qui s'est passé avec la France insoumise de Mélenchon. Les grands amis et l'ami de GND, là, c'est Mélenchon. Mais Mélenchon, il est passé d'une position laïcarde à une position islamo-gauchiste. Et oui, parce qu'en son sein, parce que la démographie change pour la gauche. Racoler le vote mahométan, Mélenchon, en France. C'est la même chose pour le Parti socialiste britannique, qui lèche les bottes des islamistes. Et oui! Vous comprenez? La gauche va devenir de plus en plus islamo-compatible. Et les gens qui défendent la laïcité vont être poussés de plus en plus vers la droite. C'est clair. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui en France. Les gens qui sont les plus stricts sur la laïcité... Ben, c'est les gens qui sont vus aujourd'hui comme présentés médiatiquement comme de l'extrême droite. C'est-à-dire Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est-à-dire, maintenant, l'extrême droite s'est rendue défendre un principe gauchiste, qui est la laïcité. Ben, on vit dans la dinguerie généralisée, quoi, en fait. C'est dingue! Parce que la droite, qu'est-ce qu'elle devrait défendre? C'est le fait que le catholicisme est la religion d'État. C'est ça, la réalité. Mais on est tellement loin dans la sécularisation des esprits. Bon, déjà, les gens ne pratiquent plus. Il y a une réalité aussi anthropologique et sociologique, notamment au Québec. Il y a une désaffectation complète de l'Église, face à l'Église. Premièrement. Deuxièmement, l'Église, on le voit, est dans un état catastrophique. Donc, qu'est-ce qui reste pour combattre cette espèce de ces demandes d'accommodement des sectes orientales? Il reste le principe de laïcité. Ça entraîne quoi? Ça entraîne le retrait du crucifié à l'Assemblée nationale, ce que je déplore. Ça entraîne, et ça entraîne cette confrontation avec le Canada anglais. D'ailleurs, les gens, hein, les fédéralistes au Québec ont très bien compris que cette contestation du Canada anglais de la loi 21 serait un sacré problème, mon cher Philippe. On peut passer ici à... Oui.
Il est déjà 17h12.
Oui, bien sûr.
Donc, presque bientôt une heure. On rappelle à nos auditeurs que Nomos TV est une web télé financée uniquement par vous, les auditeurs et les fans de Nomos. Cette web télé nationaliste décomplexée existe uniquement grâce à vous. On a besoin de vous. Il ne faut surtout pas arrêter de nous aider.
Oui.
Puis, avec... bon, évidemment, on s'excuse pour nos problèmes techniques.
Ah mais oui, on est désolé.
Mais ça s'en vient, hein? C'est-à-dire qu'on est en train de forger les bases oui. d'une plateforme solide à l'abri des GAFAM. Hein?
Oui, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a eu des petits problèmes. Mais justement, vous savez, Internet va être de plus en plus verrouillé dans les années qui viennent.
Ben oui.
Facebook, nous, on est complètement des bannis de l'ombre, des shadow bannés de Facebook. Donc, ultimement, c'est une plateforme qui va perdre tout intérêt. Donc, il faut sortir de YouTube, de Facebook, Twitter, tout ça. On va tous être expulsés. Et d'ailleurs, je le dis, hein, là, actuellement, ce qui se passe avec la campagne présidentielle en France, tous les soutiens d'Éric Zemmour vont être purgés du web traditionnel.
Probablement. Oui, absolument.
Il y a
de fortes
chances que tous les types, exactement comme les comptes Twitter qui soutenaient Trump,
ben oui.
Même sur d'autres plateformes, ont été foutus à la poubelle. Il va se produire la même chose avec les soutiens d'Éric Zemmour.
Tout à fait. Donc, même les comptes à Z pourraient sauter. Hein.
Ah, ben complètement.
Ils l'ont fait à Trump, puis il est en poste.
Mais oui, exactement. Donc, notre avenir n'est plus là-dessus. OK? Notre avenir n'est plus sur ces plateformes de merde. Donc, il faut les gauchistes, contrôlés par l'idéologie, disons, cosmopolitement correcte. Hein? C'est-à-dire, on ne peut pas critiquer l'immigration, on ne peut pas critiquer le multiculturalisme, nanani, nanana, ou si on le fait, c'est dans des cadres extrêmement restreints. Donc, ultimement, voilà, on est en train de former d'autres plateformes. Et là, oui, on teste des choses sur le plan technologique. Où est-ce qu'on peut diffuser? Comment on peut diffuser? Est-ce qu'on peut diffuser sur plusieurs réseaux à la fois, etc.? Bon. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Là, on est en direct sur nomos-tv.com. Je rappelle que pour les membres de Nomos TV, il y a du contenu exclusif. Il y a déjà plusieurs capsules en décembre de contenu exclusif réservé à vous, Espace Art, hein, sur l'actualité musicale faite par Philippe Plamondon et également les cultures et sociétés. Notamment la dernière capsule de culture et société, c'est 45 minutes, le Canada, pays islamique, quoi. République islamiste. voilà, on vous donne de l'information privilégiée de qualité que vous ne voyez pas ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous devenez membre de Nomos TV. Et moi, je vais sortir une capsule dans les prochains jours sur mon parcours nationaliste et j'explique pourquoi je suis passé du patriotisme civique à l'ethno-nationalisme. Et ça, c'est réservé à qui? Mais seulement aux membres de Nomos TV. Donc, il faut devenir membre de Nomos TV. Et en plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, une fois que vous êtes membre, vous téléchargez l'application Telegram, et puis, vous m'envoyez un message à @acormierd sur Telegram et je vous ajouterai au groupe de discussion réservé aux membres de Nomos TV. Puis vous allez voir, on a toutes sortes de discussions, des discussions géopolitiques, des discussions sur la tactique aussi politicienne employée. Qu'est-ce qu'on fait face au bolchevisme sanitaire, vous voyez, ce genre de choses-là. Du réseautage aussi, hein, ça crée des contacts entre les gens. Donc voilà, donc je vous renvoie à ce Telegram de Nomos TV. Mon cher Philippe, Monsieur oui. Pratt, oui. Vous rappelez d'André Pratt? Oui, l'éditorialiste de La Presse qui est devenu sénateur pour ses bons services rendus au Canada. Défendre le Canada! Oh, d'un océan à l'autre, être un fédéraliste! On finit au Sénat! Il a démissionné du Sénat, d'ailleurs. André Pratt, il sentait que c'était pas sa place. Eh bien, il signe une tribune dans le National Post. Hein, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le National Post, c'est le... un grand quotidien, disons, de centre-droit du Canada anglais. Donc, le Globe and Mail, c'est plutôt centre-gauche. donc Parti libéral du Canada, et le National Post, c'est plutôt centre-droit, proche du Parti conservateur du Canada. Donc, que nous dit André Pan? Alors, j'ai traduit ce texte pour vous. Le Canada anglais tombe la tête la première dans le piège du projet de loi 21 des séparatistes. Ah, lui, il voit, là, les séparatistes partout, justice nulle part. Les partisans séparatistes du projet de loi 21 ont obtenu exactement ce qu'ils espéraient. À la suite de la réaffectation d'une enseignante de troisième année pour port du hijab, les politiciens et les commentateurs du Canada anglais se sont précipités pour utiliser les mots les plus forts possibles pour condamner la loi québécoise sur la laïcité. « Lâche », a déclaré le ministre fédéral des Relations couronne autochtone, Mark Miller. « La grande honte du Canada », déplore un chroniqueur. « La loi va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme », affirmé l'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Rae, outrepassant clairement son mandat. À moins que Bob Rae ne considère que le Québec est un pays étranger. Dinguerie, quoi. Non, mais déjà, la Commission européenne des droits de la personne a validé l'interdiction des signes religieux. Hein. Donc, il faut se calmer, quoi, avec vos droits de l'homme là, qui empêchent la laïcité. Tout ce bruit permet maintenant aux nationalistes de la société distincte de prétendre que la province est à nouveau sujette au dénigrement québécois, entre guillemets. Il met des guillemets entre dénigrement québécois. Comme toujours, lorsqu'ils sont attaqués, entre guillemets, les Québécois se rallieront à leur gouvernement. C'est évident. Plus le Canada anglais nous attaque, plus on va se solidariser avec cette loi et avec la coalition Unir Québec. Le projet de loi 21 sera encore plus ancré dans l'identité québécoise. Et oui, parce que ça va nous distinguer des Anglais. Il a tout à fait raison, Pratt, là-dessus. Tenter de le modifier à la suite d'une décision de la Cour suprême, par exemple, sera impossible pour tout futur gouvernement de la province. Et oui. Le projet de loi 21 sera amendé lorsqu'une majorité de Québécois en décidera ainsi, et non parce que les experts du ROC, du Rest of Canada, crient leur indignation. Si jamais la Cour suprême déclare la loi inconstitutionnelle, ce qui est fort possible, si jamais la Cour suprême déclare la loi inconstitutionnelle, la colère et la frustration au Québec atteindront les niveaux observés pour la dernière fois lorsque l'accord du lac Meech a échoué. À l'époque, le soutien à la séparation s'élevait à plus de 60 %. Heureusement, la province était gouvernée par un premier ministre fédéraliste extrêmement habile, Robert Bourassa. Legault est aussi un leader accompli, mais c'est un séparatiste, écrit Pratt. Donc, voyez la crainte qu'ont les fédéralistes au Québec qui comprennent la dynamique qui est enclenchée. La loi 21 et sa contestation par les anglo-islamistes, mais ça va solidariser le Québec face au gouvernement Legault et ça va réactiver les luttes constitutionnelles. C'était le plan initial, les amis, de la charte. De la Charte des valeurs de Pauline Marois. C'était ça le projet. Mettre en place une loi québécoise qui affronte la doctrine du multiculturalisme canadien pour créer une crise constitutionnelle. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, les Anglais tombent complètement dans le piège, se mettent à hurler au racisme systémique, dépensent des centaines de milliers de dollars. On parle de centaines de milliers de dollars récoltés par les villes.
De leurs contribuables.
De leurs contribuables pour lutter contre les lois québécoises. Alors, qu'est-ce que les Québécois font là? Ils disent, wow, attendez, là, quand même, pas avoir des enseignantes voilées dans nos classes, c'est la base, quoi. C'est pas du racisme, là. D'ailleurs, c'est pas du racisme. On va quand même revenir sur le racisme, c'est quoi? C'est le postulat qu'il existe des races humaines et qu'il y a une hiérarchie entre elles. Madame Fatoumata, elle peut très bien enlever son putain de symbole religieux fondamentaliste. C'est pas à cause de la couleur de sa peau. C'est pas à cause de son ADN. C'est pas à cause de la forme de son crâne. D'ailleurs, on ne la renvoie pas. On lui dit d'enlever son foulard.
Ben oui.
Et c'est parce que c'est une foutue fondamentaliste islamiste qui fait de la provocation qu'elle ne le fait pas. Et oui, c'est ça que les Anglais sont pas capables de comprendre. Je rappelle qu'un fonctionnaire de l'État québécois ne peut pas arriver avec son macaron du parti pour lequel il vote aux élections. Vous ne pouvez pas arriver en tant que fonctionnaire de l'État qui travaille avec le public avec, votre macaron du Parti communiste du Québec ou du Parti conservateur. Et non, vous avez un devoir de réserve. Donc, déjà qu'on permette aux fonctionnaires d'avoir des signes religieux dans la fonction publique, qui ne sont pas en poste d'autorité coercitive, c'est déjà incroyable. Moi, j'interdirais ça à tout le monde. comme ça. Il n'y aurait rien du tout. Alors, on rétablit, on dit que le Québec est catholique, et puis les signes religieux, personne dans la fonction publique. Comme ça, basta, c'est réglé. On remet le crucifix à l'Assemblée nationale. Je rappelle que le Québec, voilà, c'est ce que c'est. Hein, c'est la continuité de l'Amérique française. Qu'est-ce qu'on a sur un drapeau? Une croix, des fleurs de lys. Il faut d'ailleurs demander aux déconstructeurs laïcs qui vont vouloir retirer la croix du drapeau. Je ne sais pas. Non, ils peuvent aller très loin, les gars.
On a demandé ça à Sol Zanetti. Oui, il voulait remplacer fleurs de lys par
Québec solidaire.
Les capteurs de rêve.
Ah oui, là, pour déconstruire le drapeau national, là, pas de problème. Québec solidaire était aux abonnés. Là, ils sont là. Par contre, quand c'est le temps de défendre la loi 21, ouh là, les lobbies islamistes qui ont pénétré le parti, là, font en sorte qu'ils ne sont plus là. Ouais, bon, bref. Voilà, on a compris. Donc, analyse assez juste, je pense, de Pratt, parce que c'est ce qui va se produire. C'est-à-dire que si jamais la loi 21 est remise en question par la Cour suprême du Canada, ça va créer une crise constitutionnelle Québec-Canada. C'est inévitable. Et le taux d'appui au mouvement nationaliste va être exponentiel. Les gens vont être furieux de se faire dire quoi faire par le Canada anglais, encore une fois. Donc, je vous le dis, franchement, l'analyse de Pratt est bonne. Et en gros, ce qu'il fait là, il fait ce que Émilie Nicolas, vous savez, la chroniqueuse noire du Devoir, avait fait la même chose, je pense, dans le Maclean's. Elle avait dit aux Anglais... Ne contestez pas la loi 21. Parce que ça ne va pas nous aider, nous, qui voulons la battre au Québec, parce que ça va être vu comme une attaque des Anglais face à une loi québécoise. Donc, s'il vous plaît, les Anglais, ne vous mêlez pas de cette question-là. Pratt dit exactement la même chose. Et je pense que et Émilie Nicolas et André Pratt ont totalement raison. C'est-à-dire que par cet acte-là, le fait que les maires canadiens-anglais veulent dépenser des milliers et des milliers de dollars pour nous attaquer, ça va juste solidariser les Québécois avec le gouvernement Legault et avec cette loi sur la laïcité de l'État.
Mais les Angloïdes, c'est tellement des intégristes déficients qui vont le faire quand même. Hein.
Complètement.
Ils risquent d'aller jusqu'au bout.
Ah oui.
Ils sont convaincus.
Ben, la preuve!
Mais ils sont convaincus de leur affaire, là.
Et tout complètement.
Bon, oui.
Et pour eux, c'est une loi raciste qu'il faut combattre, qui humilie le Canada sur la scène internationale. Hein. Bob Rae a quand même dit ça, là.
Oui.
Attendez, là, Bob Rae nous dit, ambassadeur du Canada à l'ONU, que c'était une loi qui allait à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Mais ouais, voyons donc.
Alors quoi, la France gauchiste de Macron, de François Hollande, c'est un pays qui met des lois à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme. Ça va, les dingues! Ça va, les dingos!
Mais en fait, c'est
vous
faux.
Êtes dingos, là?
Mais c'est faux. On se souvient, en France, il y avait deux... surveillante de crèche là, en garderie,
ouais.
Qui avait fait appel de la décision jusqu'à la Cour suprême de
non, la Cour européenne des droits de l'homme.
La Cour européenne des droits de l'homme, puis elles ont été déboutées.
Eh oui, déboutées, les islamistes! Ben, pop, pop! Eh oui, vous êtes déboutés! On n'en veut pas de votre chérie! Votre daoulé islamie, le Coran, destournant, Allahu Akbar! On n'en veut pas! Votre projet islamiste, on n'en veut pas! OK, vous prenez vos clics, vos claques, vous allez en Ontario. Eh oui, comme ça, c'est réglé. Donc, c'est sûr qu'on est tous un peu tristounets, parce qu'on aimerait garder le crucifix à l'Assemblée nationale. On se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en retirer le crucifix à l'Assemblée nationale pour combattre les islamistes? Eh oui, je l'ai dit 1000 fois, Nomos TV, je vais le redire 1000 fois s'il le faut. Le problème est avant tout démographique. Faut pas les faire venir. Si vous faites venir des mahométans, vous allez avoir des demandes d'accommodement raisonnable mahométans. Eh oui! Parce que qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait qu'un peuple change dans son anthropologie? Mais c'est le changement de peuple! Si vous changez de peuple, vous changez d'anthropologie parce que vous changez de civilisation. C'est pas compliqué à comprendre. La France, qui est un État, qui est une superpuissance culturelle, n'arrive pas à assimiler les Maghrébins et les Africains subsahariens. Pensez-vous que le Québec, qui n'a même pas de reconnaissance statutaire au sein de la Confédération canadienne, va réussir à assimiler ces populations? Non, mais franchement, il faut arrêter 2 secondes de délire. Donc, la loi 21, elle sert à quoi? Elle sert à pourrir la vie des allogènes hostiles. Et elle sert à créer une crise constitutionnelle contre le Canada anglais. Et elle réussit tout à fait à faire cela. Merci à la stupidité des angloïdes,
ouais,
alliés aux islamistes.
Mm-hmm.
vous allez faire mousser le séparatisme québécois. Vous allez démontrer, en fait, l'écart culturel qui existe entre nous, Canadiens français qui voulons garder notre civilisation française en Amérique, n'est-ce pas? Et vous, qui êtes dans votre post-nationalisme individualiste, globaliste, dégénéré. Mais ça l'arrête. Merci, les gars. Ouais, c'est parfait, on aime ça. Pendant ce temps-là, en Ontario, mon cher Philippe,
oui.
Qu'est-ce qui se passe-t-il en Ontario? Vous êtes là, quoi, l'Ontario? Mais je m'en fous de l'Ontario.
Ah, est-ce que c'est les mathématiques racistes?
Oui. Ah. Vous savez, la semaine dernière, vous avez la piscine raciste.
La nage.
Mais la nage était raciste.
La natation discriminatoire.
Oui, oui, voilà, la piscine, c'est raciste parce que les Noirs, voilà, ils ne savent pas nager. Donc, les tests de natation pour devenir policier, c'était problématique. Là, c'est les tests de compétences mathématiques de l'Ontario. La Cour de l'Ontario. La Cour de l'Ontario déclare que le test de compétences en mathématiques de l'Ontario est inconstitutionnel. Vous dites, comment quoi? Le test de mathématiques est inconstitutionnel. Oui, pourquoi? Ça, c'est un article de la Fédération des enseignants de l'Ontario. C'est officiel, ce que je dis. C'est pas fake news, Daily Stormer. Hein? C'est le vrai truc. La Cour divisionnaire de l'Ontario a statué que l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario doit accorder une certification aux étudiants qui n'ont pas encore réussi le test de compétences en mathématiques, mais qui ont par ailleurs satisfait à toutes les autres exigences de certification des enseignants. Donc là, c'est pour la formation des enseignants. Bon, pourquoi? La Cour divisionnaire a conclu que le test de compétences en mathématiques avait eu une incidence négative sur l'entrée dans la profession enseignante des candidats racisés. Et que d'autres solutions de rechange raisonnables auraient pu être mises en œuvre. La FTO applaudit les efforts déployés par le Conseil des candidats à l'enseignement de l'Ontario pour mener à bien cette contestation judiciaire. Aucune recherche ne suggère qu'un test standardisé améliorerait les résultats des élèves ou la pédagogie des enseignants. L'Ontario compte certains des enseignants les mieux formés au monde et cette décision renforce leur professionnalisme, a déclaré le président de la FTO, Chris Cowley. Ah, mais c'est super, ça! Donc, là, on est dans Orwell. C'est-à-dire que là, ils nous disent, en fait, les racisés ont des problèmes avec les tests de mathématiques. Donc, abolissons le test de mathématiques. Et en passant, nos enseignants sont très professionnels. Et le fait d'enlever ce test-là, ça les rend encore plus professionnels. Oui, oui, oui. Alors là, bravo. Alors là, bravo, les gars. Donc là, on avait la nage raciste. Là, on a les maths racistes. J'ai rigolé sur Twitter quand j'ai balancé ce tweet-là. J'ai dit, bon, ben oui, ben peut-être qu'il faut abolir l'école. Parce qu'il n'y a pas une culture de l'effort de la part des communautés noires. Ça fait que ça les discrimine, donc on peut peut-être abolir l'école. Oui, mais on n'était pas loin, hein, en fait, parce que là, on abolit les maths. Parce que les personnes racisées, Je suis sûr que ces personnes racisées-là, ça ne doit pas être des Asiatiques. Oui, ça doit être plutôt genre Jamaïque, Pakistan, un truc. Ouais, au sud, le sud, hein? Ah oui, la peau un peu foncée, les gars, ouais, peut-être, je sais pas, l'Amérique latine, l'Afrique, tout ça, le Proche-Orient, ouais. Ça doit être un peu ça. Donc, oh, les personnes racisées, oui, sont, on va embellir les tests. Donc là, vous voyez, ça c'est le d'hygiénisme occidental. On fait venir des populations à la ramasse du tiers-monde qui viennent de pays à la ramasse, et on abaisse nos standards, parce qu'ils ne sont pas capables de répondre aux exigences élevées de la civilisation occidentale. D'hygiénisme. On fait baisser le niveau moyen de nos demandes parce qu'on fait venir des populations incapables. On est en effondrement civilisationnel. Il faut bien comprendre ça. Et d'ailleurs, ça sort de toutes les règles de la méritocratie un peu libérale classique. C'est-à-dire, en gros, OK, on ne met pas de discrimination raciale vers personne, les tests sont à ce niveau-là, et puis si vous remplissez les conditions, vous êtes accepté, puis c'est tout. Il n'y a pas de discrimination raciale, ça suffit. Eh bien, la Cour de l'Ontario a déclaré que c'était inconstitutionnel parce que c'était discriminatoire, parce que les putains de racisés du tiers-monde à bas quotient intellectuel ne sont pas capables de faire le putain de test de mathématiques. Il faut quand même voir le degré de dinguerie dans lequel on est rentré. Et tout ça a commencé avec les femmes. Tout ça a commencé avec les femmes qu'on a fait rentrer dans les pompiers et la police. On a baissé les standards en disant « Oui, mais on va faire un accommodement pour que les femmes deviennent pompières. » Mais on s'en fout, ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a dans l'armée canadienne des femmes soldats qui ne sont pas capables de faire les entraînements correctement, Mais parce qu'elles sont juste pas, elles n'ont pas les capacités physiques. Et tu sais, les filles font des entraînements pour être soldates. Elles ne sont pas capables de porter le sac et le flingue. Elles demandent que le flingue soit porté par le camarade homme. Et oui, et si l'inspecteur dit quelque chose, il va se faire taper sur les doigts parce qu'il remet en question l'égalité et la discrimination positive des femmes. Donc tout ça a commencé avec les quotas de femmes. Alors, là, c'était les quotas de femmes. Là, on est au quota de race. Demain, on sera au quota de quoi? Des unijambistes? Non, mais il va falloir baisser les standards parce qu'il y a des nains qui veulent être aussi pompiers ou je sais pas. Ouais, non, voilà, là, c'est la gauche. La gauche égalitariste. Le principe de l'égalité devenu fou. Non. Il y a une hiérarchie des choses. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont médiocres. On ne demande pas à ce qu'il y ait la discrimination raciale pour les enseignants. On veut juste que le niveau soit bon. Mais non. Parce que les racisés ne sont pas capables d'atteindre le niveau, on abaisse le niveau. Catastrophe civilisationnelle. Et ça, c'est le Canada qui nous traite de racistes, qui ne veut pas de la laïcité. Allez vous faire foutre, les Ontariens. Allez vous faire voir au Soudan. Okay? On n'en a rien à foutre de votre espèce de relativisme racial. Alors, c'est le socialisme racial, hein, c'est ça. C'est l'égalitarisme racial. C'est-à-dire que c'est l'effondrement au nom de l'égalité. On va mettre en place une sorte de discrimination, une sorte de fausse lutte à la discrimination raciale pour faire baisser le niveau. Le socialisme égalitariste racial canadien. Voilà le régime dans lequel on vit actuellement. Et on est censé trouver ça normal. Oh oui, c'est normal. Dinguerie! Dinguerie, ce pays est en train de se transformer en un laboratoire progressiste woke. Hein, la dernière capsule de la semaine passée, je parlais du wokistan canadien. Ah ben, on y est, là. C'est le wokistan canadien. Complètement. Et ces gens viennent faire la morale sur la laïcité. Mais allez vous faire voir, quoi. L'Ontario est en dégénérescence totale et le plus possible, il faut que le Québec tienne le cap, notamment en conservant l'idée qu'il y a une hiérarchie. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais. Il y a une méritocratie. Quand vous êtes bon, voilà, vous passez devant, vous avez le poste. Et quand vous êtes médiocre, vous ne l'avez pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et on n'a pas à faire des quotas ethniques de femmes, de je ne sais pas trop quoi, pour remplir les postes. Moi, je suis contre la logique de parité, contre la logique de quotas, parce que je pense que ça entraîne l'effondrement civilisationnel. Mon cher Philippe, en parlant de races hostiles,
oui.
Insultes, crachats et coups, l'envers des arrestations musclées sur la Grande Allée. Vous rappelez? Oh, les pauvres petits noirs qui avaient été brutalisés par des flics. Oui, on a plus d'infos maintenant là-dessus, à Québec. Hein? On a plus d'infos et c'est pas très reluisant pour nos amis congoïdes. Hein? Il paraît que, oui, ils auraient peut-être fait un peu de provocation face aux flics. On va lire l'article ici. L'article de Radio-Canada vient de jeter un nouvel éclairage sur les arrestations controversées survenues à la sortie du bar Le Dagobert dans la nuit du 26 au 27 novembre à Québec. Les agents en fonction auraient reçu une pluie d'insultes de la part des jeunes, en plus d'être visés par des crachats et des coups. Peu de temps après les événements, le chef de service de police de la ville de Québec avait révélé que 6 arrestations avaient lieu lors de cette intervention. 5 concernaient du désordre et la 6e était pour voie de fait sur un agent.
Bon.
Vous avez frappé un agent.
Oui. Bien, cracher sur un policier ou sur qui que ce soit, c'est un voie de fait.
C'est un voie de fait. Oui, si vous crachez sur quelqu'un, c'est un voie de fait, oui. Soit dit en passant. Oui. Radio-Canada a pu confirmer que les voies de fait seraient en réalité un coup porté au visage d'un policier du SPVQ. L'auteur présumé de ce geste est la jeune femme que l'on aperçoit en train de se faire traîner dans la neige par 2 agents dans diverses vidéos. Elle aurait frappé le policier au moment où ce dernier intervenait auprès du jeune Pacifique Nyokwizera. Le gars, il s'appelle Pacifique. Il n'est pas très pacifiste, en tout cas. L'adolescente aurait d'ailleurs essayé d'asséner un deuxième coup à l'agent qui l'aurait esquivé. Ah, c'est sûr que si tu essaies de frapper les flics, hein, qui représentent le monopole de la violence de l'État, le monopole de la violence légitime de l'État, techniquement, ça va mal se passer pour toi. Si tu essaies de frapper des flics, ça va mal se produire pour toi. Elle aurait aussi tenté de cracher sur les policiers au moins 2 reprises, en plus de leur faire des doigts d'honneur, et de les traiter de racistes. Alors ça, c'est le truc des Noirs.
Raciste!
Comme si ça allait nous tétaniser. Toi. Mais on n'en a plus rien à foutre de vos insultes. les ensauvagés, les sauvageons qui foutent le boxon dans les villes de Québec. Arrêtez de nous péter les couilles, OK? Allez à l'école. Arrêtez d'écouter du rap de merde, OK? Sortez de votre culture criminogène. Peut-être que ça va vous permettre de gravir les échelons sociaux, hein? Au lieu de toujours pleurnicher et penser qu'il y a un complot blanc contre vous, les Noirs. OK? Bossez un peu, hein? Travaillez. Elle est une culture d'élite, de la réussite scolaire. Peut-être que, voilà, vous n'allez pas vous retrouver en train d'insulter les flics dans les bars. Mais oui! Peut-être que, voilà, il faut sortir, il faut vous questionner comment ça se fait que vous êtes surreprésenté toujours dans les milieux criminels et en prison. Je rappelle que les Noirs représentent 13 % de la population américaine et représentent 50 % des meurtriers. 13 % de la population. Donc, ça veut dire que si on renvoyait ces 13 % d'Afro-Américains en Afrique, il y aurait 50 % moins de meurtres aux États-Unis. Vous imaginez ce que ça veut dire? Population criminogène. Population criminogène au Brésil, en Belgique, en Australie. C'est incroyable, mais c'est vrai. En France, en Grande-Bretagne, au Québec et au Canada. Donc, à un moment donné, là, les Noirs, là, remettez-vous en question. OK? Il n'y a pas de complot blanc contre vous. C'est parce que vous vous comportez comme des dingos. Vous êtes une population criminogène et vous avez des problèmes culturels à l'intérieur de votre propre société. Donc, arrêtez, là, de penser qu'il y a un complot blanc contre vous. D'ailleurs, si on était si raciste que ça, qu'est-ce que vous venez foutre dans nos pays blancs à haut quotient intellectuel? Parce que vous aimez ça, au fond. Vous ne pouvez pas vous passer de nous. Hein? Et quand vous n'êtes pas à la hauteur de vos propres aspirations, vous nous traitez de racistes. Bon, ça suffit dans l'hypocrisie noire. On n'est plus capable. Le jeune homme de 18 ans a déjà dit en entrevue à la presse et au Journal de Québec qu'il n'avait rien à se reprocher. Oh! Et qu'il était tranquille avec ses amis à l'extérieur du Dagobert cette nuit-là. Or, selon diverses sources policières, le jeune homme aurait refusé à plusieurs reprises de quitter les lieux malgré les ordres des agents du SPVQ. Il aurait aussi crié des insultes aux policiers et les aurait notamment traités de racistes, ce qui constitue des infractions au règlement municipal sur la paix et le bon ordre.
Eh oui. Ah. Eh oui. Ah, c'est sûr. On se comporte comme des petites racailles et puis après, on pleurniche parce que les flics font leur boulot. Donc, voilà. Toute la logique victimaire autour de ce type qui a été maltraité s'effondre, quoi. Les gars, ils ont insulté des flics, ils ont craché dessus. Ils ont même fait des voies de fait, ils ont voulu les frapper. Voilà, les flics, c'est la violence légitime de l'État, donc ils réagissent.
En tout cas, il y a une réaction médiatique de gauche parce qu'on s'est fait hystériser ça sans même oui. ne savoir c'était quoi le fond
oui.
de l'histoire.
Oui, et je suis content de savoir qu'il y a ça quand même.
Bien sûr.
Ça veut dire qu'on a quand même des anticorps médiatiques, là. Il y a des journalistes, là, Radio-Canada, qui disent « Ouais, bon, ça va, quoi. » En fait, les gars, ils sont un peu problématiques. Donc ça, c'est bien. Je suis content que cette histoire-là ne se développe pas dans une espèce de George Floyd québécois à la con. Là. C'est très bien que ça soit à ce niveau-là. Et oui, noir, population criminogène, toujours dans les mêmes problèmes.
Et puis Léo nous rappelle que cette gang-là sont comme soupçonnés, voire accusés de viol collectif. Hein,
c'est vrai.
Sur des adolescents.
J'avais oublié de mentionner ça. C'est tout à fait vrai. Il y a des soupçons de viol collectif sur des mineurs.
Mais plus que des soupçons, il y a des accusations
des
portées.
Des accusations portées contre... Alors, pas contre, comment il s'appelle, Pacifique. En fait, sans doute que c'est Pacifique, mais au moment des faits, il était mineur.
Oui.
Donc, on ne peut pas révéler vraiment la preuve.
Exact. Vous
voyez. Mais son pote, qui a témoigné dans les médias, notamment pour le défendre, lui, il est accusé.
C'est ça.
Des accusations.
Oui, il y a des charges.
Il y a des charges criminelles, le gars. Il n'est pas condamné encore. Il a des charges criminelles de viol sur des mineurs. Donc, ces gens-là feront la pleurniche? Oui. Allez, fermez-la. OK. Entente confidentielle. Ah oui, ça, c'est dingue, ça. Alors, on est dans la bonne vieille corruption libérale. Entente confidentielle sans appel d'offres avec un donateur libéral. Ottawa refuse de révéler les détails de lucratifs contrats. Je vous résume ça. Là, l'article est assez long.
Hey, ça, c'est quand même hallucinant. Ça, c'est au chemin Roxham?
Le chemin Roxham sur lequel, finalement, sont mis les terrains de migrants hein, illégaux qui passent la frontière. Ben, bizarrement, le Canada a loué cet emplacement-là. Ah, tiens donc, un promoteur qui est lui-même donateur du Parti libéral. Bon. Incroyable, ça!
Non, mais je suis presque surpris. Est-ce qu'il y aurait de la collusion entre les milieux immobiliers qui donnent les contributeurs du Parti libéral et le Parti libéral lui-même? Bon, ben, c'est incroyable. Moi, je suis scandalisé. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire du Parti libéral du Canada. On n'a jamais vu d'histoire de corruption, de collusion libérale. Incroyable! Je suis surpris, surpris, surpris. Le gouvernement fédéral a loué pour 10 ans, sans appel d'offres. C'est bizarre, pas d'appel d'offres. Les terrains d'un important contributeur du Parti libéral du Canada afin de loger les migrants qui traversent la frontière de manière régulière par le chemin Roxham ainsi que les fonctionnaires qui les accueillent. Et Ottawa tente maintenant de cacher aux contribuables le montant de la dépense. Oui, parce qu'Ottawa ne veut pas vous dire combien ça coûtait. C'est bizarre, ça. Le gouvernement fédéral a d'abord loué des chambres à l'hôtel Saint-Bernard, un établissement qui appartient à l'homme d'affaires Pierre Gay. À un jet de pierre de la frontière, le gouvernement du Canada a envoyé un chèque au propriétaire de l'hôtel. D'ailleurs, ce dernier doit être parti en vacances pendant un an puisque les chambres étaient louées vides et que personne ne couche dedans. Ah, pas mal ça! Personne dedans. Avait dénoncé le député conservateur Pierre-Paul Huss en chambre. La GRC a aussi accordé un contrat d'un demi-million de dollars à une entreprise de M. Gay pour qu'elle aide le corps policier à améliorer les installations de son détachement local. De son côté, l'Agence des services frontaliers du Canada a aménagé un grand campement avec des installations temporaires pour les fonctionnaires et les demandeurs d'asile sur les terrains de M. Gay. Un premier bail a été signé par le gouvernement fédéral avec son entreprise pour les années 2017 à 2021, inclusivement. La SCF, donc l'Agence des services frontaliers du Canada, refuse de dire quel en était le coût. La SCF dépense 3 millions de dollars par année pour l'infrastructure de traitement et d'hébergement des demandeurs d'asile située à Saint-Bernard-de-la-Colle au Québec, ce qui inclut notamment les baux, a expliqué à la presse Dominique McNeely, porte-parole de l'agence. Des 15 millions de dollars déboursés à cette fin en 5 ans, il faut notamment soustraire environ 6 millions accordés dans le cadre d'un contrat public à une autre entreprise qui fournit des roulottes. Sur les 9 millions restants, combien vont à Pierre Gay pour la localisation des terrains? La SV et Services publics et approvisionnement Canada refusent de le dire malgré les demandes répétées de la presse depuis un mois. Nous ne pouvons divulguer le montant des baux car il s'agit de renseignements commerciaux confidentiels provenant de tierces parties, soit le bailleur, ont écrit les deux agences gouvernementales en réponse à nos questions. Pourtant, les tribunaux ont décrété plus d'une fois par le passé que les détails des baux signés par le gouvernement fédéral pouvaient être rendus publics. Donc, non seulement ces enfoirés donnent des contrats à leurs contributeurs, aux contributeurs du Parti libéral, mais en plus, ils refusent de dévoiler les montants. Ça, c'est un assez bon scandale, ça. Hein? Moi, si j'étais le Bloc, je dis ça comme ça aux gens du Bloc, peut-être pourriez travailler le sujet. Parce que là, pour l'instant, on voit que c'est juste le Parti conservateur qui est là-dessus. Donc, le Bloc, les bloquistes, le Bloc québécois. Voilà, un petit sujet pour vous, je sais pas. Bing, bing, on attaque le Parti libéral en chambre là-dessus. L'invasion migratoire qui enrichit les amis du régime libéral de Justin Trudeau. Ah! Ça, ça nous fait passer au truc des passeurs de migrants. Il y a un business derrière ça. Mais là, il y a un business.
Trafic humain, corruption, immigrationnisme, c'est vraiment c'est la mafia libérale.
Hein? Un œuf, jambon, fromage, c'est la totale. Ah, vous pensiez que vous étiez remplacé? Non, vous êtes remplacé, mais en plus, il y a des corrompus libéraux derrière ça. La collusion libérale. Des donateurs du parti qui s'en mettent plein les poches pendant que vous, vous êtes remplacé. Et vous avez besoin d'un passeport sanitaire pour aller au restaurant. Mais eux, pas de problème. Pendant ce temps-là, le Parti libéral donne... Hein, des contrats, des millions de dollars à ses amis pour accueillir les migrants illégaux. Et oui, qui eux ne sont pas vaccinés. Ça va prendre votre passe sanitaire. Oui, le Canada de Justin Trudeau, les amis. Canada, le pays magique. Pays de merde. Et puis... on retourne au Québec. Là, ben, on était au Québec, parce que c'était le chemin Roxham, c'était le Parti libéral. Là, on tombe à la coalition Avenir Québec. Alors, mon cher Philippe, le français, langue de la discorde à la CAQ. Ça, j'ai trouvé que c'est un article très intéressant, ici, de Radio-Canada. Parce que ça nous indique, on le savait, mais qu'il y a des dissensions à l'intérieur de la CAQ, donc il y a les rouges et les bleus. C'est une coalition, hein. Les anciens péquistes, les anciens libéraux, c'est sûr que des fois, sur les enjeux identitaires, ça grince, ça marche pas. Et là, la langue, c'est un de ces enjeux-là. Alors, c'est peut-être la première ligne de faille à apparaître clairement au sein de la coalition caquiste. Les mesures à prendre pour renforcer le statut du français et lutter contre l'anglicisation de Montréal divisent l'équipe gouvernementale.
Au sein même du caucus de la CAQ, l'aile plus nationaliste s'active depuis des semaines pour réclamer une action plus musclée. Parmi eux, le ministère responsable de la langue française, Simon-Jolin Barrette, cherche à faire monter les enchères et sollicite ses collègues ministres au téléphone pour obtenir leur appui à un renforcement de son projet de loi. Des alliés sont montés au front pour lui prêter assistance, à commencer par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Donc Roberge, un bleu. Les appuis au ministre Jolin Barrette et Roberge sont venus de là où on ne les attendait pas. On raconte que le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a acheté il y a quelques mois un exemplaire du livre « Pourquoi la loi 101 est un échec », gagnant du prix du livre politique 2021 de l'Assemblée nationale, donc de Frédéric Lacroix, à chacun des membres du cabinet pour les sensibiliser à l'importance de l'enjeu. Livre que j'ai lu d'ailleurs, « Pourquoi la loi 101 est un échec », dit en gros que l'attraction des réseaux anglophones est tellement grande que la loi 101 ne fonctionne pas puisque ça anglicise même les francophones. En gros, là, c'est l'histoire de la complétude institutionnelle du réseau anglophone. C'est-à-dire que la communauté anglophone a tellement un réseau fort, alors surfinancé, qui fait en sorte qu'elle est capable de se maintenir de manière artificielle en amenant vers elle les allophones et les francophones. En gros, là, c'est la thèse de ce livre. Ce noyau dur peut compter sur un nombre croissant d'alliés, à la fois au caucus et au cabinet. Parmi eux, le ministre de la Famille. Là, prenez les noms en note. Là. Donc, on a qui? On a évidemment Jolin Barrette, SJB. On a Roberge. On a André Lamontagne, ministre de l'Agriculture. On a le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, député de Montmorency. On a Jean-François Simard, qui affiche ouvertement sa position, le député de Nicolet Bécancour, Donald Martel. OK? Donc, Lacombe, Simard, Martel, Jolin Barrette, Roberge et Lamontagne. Ça, c'est les bleus. D'accord? Mais, évidemment, de l'autre côté du spectre, cependant, des députés sont d'avis que le projet de loi atteint un point d'équilibre. Oui, la loi molle actuellement, qui est la loi 96. C'est la frange plus fédéraliste de la coalition. Elle peut aussi compter sur des appuis importants, tant au caucus qu'au cabinet. Parmi eux, la vice-première ministre, Geneviève Guilbeault. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Et le ministre des Finances, Éric Girard. J'aimerais savoir où est Fitzgibbon et Dubé là-dedans. D'après moi, ils sont plutôt dans l'aile rouge.
Ben oui,
mais l'article ne les mentionne pas.
Ben, notamment Sonia Lebel et l'autre, là, la dame... là.
Guilbeault.
C'est eux qui avaient refusé l'idée d'Équipe Québec. Hein?
Oui. Et Guilbeault a même demandé un drapeau du Canada à être mis dans son...
dans son bureau.
Dans son bureau. Pour vous dire. Donc,
ça donne une idée
des allégeances de chacun. L'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, Christopher Skeet, fait partie de leur équipe. Bon, ben l'anglais de service est du côté, bon, c'est pas très, très, comment je dirais, surprenant. On entend qu'il n'a pas du tout aimé voir Simon-Jolin Barrette chercher à renforcer son projet de loi sans l'avoir préalablement consulté. Il n'a reçu aucun appel alors qu'il est responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise. Oui, ça doit être le froid hein, entre ces deux-là. Donc, en gros, c'est intéressant cet article parce que ça nous démontre qu'il y a vraiment deux camps au sein de la coalition Avenir Québec, les bleus et les rouges. Ça nous rappelle un peu ce qui se passait dans les années 60 avec l'Union nationale. L'Union nationale, il y avait des séparatistes, il y avait des bleus, il y avait des gens plus fédéralistes, il y avait des gens qui étaient plus rouges. Et Daniel Johnson devait faire l'équilibre entre ces deux factions. Et d'ailleurs, c'est un peu cette division à l'interne qui a fait que l'Union nationale s'est effondrée, puisque finalement, c'est le Parti québécois qui a pris le volet nationaliste. Et l'Union nationale est décédée. Peut-être qu'elle aurait pu survivre si Daniel Johnson n'était pas mort. On peut faire de la politique fiction en pensant que Daniel Johnson aurait pu faire survivre l'Union nationale s'il avait vécu. La mort de Daniel Johnson a mis fin à l'existence de l'Union nationale, selon moi. Et c'est le camp rouge qui a pris le dessus après sa mort. Et ça s'est terminé comme on l'a vu, hein, c'est-à-dire voilà, dans l'effacement progressif du parti au détriment finalement, du Parti québécois qui a pris le relais. Hein, on est passé d'un parti bleu qui était l'Union nationale au Parti québécois, et là c'est la coalition Avenir Québec. Et on revient en quelque sorte en mettant le référendum de côté, on revient à la situation un peu de l'Union nationale où il y a des factions plus fédéralistes et souverainistes au sein du parti. Ce qui correspond bien à la sociologie canadienne-française de l'époque. Hein. Quand je dis que la CAQ est le parti du compromis canadien-français, c'est ce que ça veut dire. Il défend à la fois l'identité québécoise, voilà, avec la loi 96, la loi 21, de manière un peu molle. Bon, il parle de réduire l'immigration, etc. Il réduit, mais pas vraiment, il réduit pas trop l'immigration. Bon. Et puis, en même temps, ben, il incarne quand même la défense, ou en tout cas la compétence économique, qui était plutôt le bastion des libéraux. Donc, il cumule l'identité et l'économie dans un même parti, ce qui fait que ça le rend crédible aux yeux de la population. Et puis, les Canadiens français, finalement, sont contents parce que ça représente leur mollesse généralisée. Il faut quand même prendre ça en compte. Les Québécois, c'est un peuple mou. Hein. C'est pas un peuple de révolutionnaires qui aiment la radicalité. C'est un peuple de compromis, voilà, de choses un peu molles, hein, qui adule René Lévesque, l'homme lui-même, qui était d'une mollesse incroyable, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, qui trouvait lui-même la loi 101 comme trop radicale. Donc, il faut quand même comprendre que quand vous voulez gouverner un peuple qui est aussi mou, vous devez vous-même vous ramollir. Je rappelle que même les positions très, très droitières de la CAQ sur le plan économique, qui étaient celles de l'ADQ, ont été mises de côté. La CAQ a dû se recentrer sur le plan économique pour prendre le pouvoir. C'est un peu la même chose sur ces questions identitaires. Hein? C'est-à-dire que, oui, ils défendent l'identité nationale, mais de manière extrêmement molle, pour pas trop faire peur aux rouges en leur sein. Et ils veulent garder l'électorat fédéraliste.